12. Jérôme Robinson est en train de charger des planches en bois sur son épaule, sous le soleil de plomb de l'Arizona, quand son téléphone portable sonne. Les maisons qu'ils construisent, les deux premières charpentes sont déjà montées, sont situées dans un quartier modeste mais respectable de la banlieue sud de Phoenix. Il pose les planches en travers d'une brouette qui se trouve là et sort son portable de sa ceinture, s'attendant à ce que ce soit Hector Alonso, le chef d'équipe. Ce matin, un travailleur, une travailleuse en fait, a trébuché et chuté dans un tas de barres d'armature. Elle s'est cassée la clavicule et a écopé d'une vilaine entaille au visage. Alonso l'a emmené aux urgences de l'hôpital Saint-Luc, désignant Jérôme chef de chantier provisoire en son absence. Ce n'est pas le numéro d'Alonso qu'il voit s'afficher sur le petit écran, mais le visage de Holly Gibney. C'est une photo qu'il a prise lui-même, réussissant à immortaliser un de ses rares sourires. « Hey, Holly, ça va? Je peux te rappeler plus tard? C'est la folie ici ce matin, mais il faut que tu rentres, » dit Holly. Elle a le ton calme, mais Jérôme la connaît bien, et dans ces 5 mots seulement, il peut déceler de fortes émotions réprimées, parmi lesquelles la peur. Holly est toujours quelqu'un de très craintif. La mère de Jérôme, qui aime beaucoup Holly, avait dit un jour que la peur était son réglage par défaut. « Que je rentre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est lui, tout à coup, qui a peur. « Il est arrivé un truc à papa? À maman? C'est Barbie? C'est Bill, » dit-elle. « Il a un cancer. Un très mauvais cancer. Pancréas. S'il ne suit pas de traitement, il va mourir. Il va probablement mourir dans tous les cas. Mais ça pourrait au moins repousser l'échéance. Et puis... il m'a dit que c'était juste un petit ulcère à cause... » Elle prend une profonde inspiration tremblante qui fait grimacer Jérôme. « À cause de ce petit con de Brady Hartsfield !» Jérôme n'a pas la moindre idée de ce que Brady Hartsfield vient faire dans la terrible maladie qui frappe Bill, mais il sait ce qu'il voit. Juste là, des ennuis. À l'autre bout du chantier, 2 jeunes gars avec casque de protection, des étudiants bénévoles pour Habitat for Humanity comme lui, sont en train de donner des indications contradictoires à un camion de béton qui bippe en reculant. La catastrophe est imminente. « Holly, donne-moi 5 minutes et je te rappelle. Mais tu vas venir, hein? Dis que tu vas venir, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir lui en parler toute seule, et il faut qu'il commence un traitement immédiatement. 5 minutes, dit-il, et il coupe la communication. Ses pensées tournoient si vite qu'il craint que leur friction ne mette le feu à ses méninges et le soleil brûlant n'aide pas. Bill, un cancer? D'un côté, ça lui paraît impossible, et d'un autre côté, ça lui paraît totalement possible. Il était en pleine forme pendant l'affaire Saubers, quand Jérôme et Holly ont fait équipe avec lui, mais il aura bientôt 70 ans. Et la dernière fois que Jérôme l'a vu, avant de partir pour l'Arizona en octobre, Bill n'avait pas l'air si bien que ça. Trop mince, trop pâle. Mais Jérôme ne peut aller nulle part tant qu'Hector n'est pas revenu. Ce serait comme laisser l'asile aux mains des aliénés. Et connaissant les hôpitaux de Phoenix, où les urgences sont débordées 24 heures sur 24, il pourrait être coincé ici jusqu'à la fin de la journée. Il sprinte vers le camion-citerne, hurlant « Stop ! Pour l'amour du ciel, stop !» de toutes ses forces. Les 2 bénévoles, inconscients, arrêtent le camion auquel ils donnaient de mauvaises indications, à moins 1 mètre d'un fossé de drainage fraîchement creusé. Jérôme est en train de reprendre son souffle, les mains plaquées sur les genoux, quand son téléphone se remet à sonner. « Holly, je t'aime, » pense-t-il en le décrochant à nouveau de sa ceinture, « mais des fois, tu me rends complètement barge. » Seulement cette fois, ce n'est pas la photo de Holly qu'il voit, c'est celle de sa mère. Au bout du fil, Tania est en pleurs. « Il faut que tu rentres à la maison, » dit-elle. Et Jérôme a juste le temps de repenser à un truc que disait son grand-père. « La malchance attire la malchance. » Il s'agit de Barbie, en fin de compte. 13. Hodges est dans le hall d'entrée et s'apprête à sortir quand son téléphone se met à vibrer. C'est Norma Villemer. « Il est parti ?» s'enquiert Hodges. Norma n'a pas besoin de demander de qui il parle. « Oui. » Maintenant qu'il a vu son patient chéri, il peut enfin se détendre et continuer ses visites.
Je suis vraiment désolé pour l'infirmière Scapelli.
C'est vrai. Il ne l'appréciait pas particulièrement, mais c'est quand même vrai. Moi aussi. Elle dirigeait le personnel infirmier comme le capitaine Bligh dirigeait le Bounty, mais j'ai horreur de penser à quiconque se... Vous savez, on apprend la nouvelle, et la première réaction qu'on a, c'est de se dire « Oh non, pas elle, jamais !» C'est l'effet du choc. Et puis, tout bien réfléchi, on se dit « Ah oui, c'est parfaitement logique. Jamais marié, pas d'amis proches, pas que je sache en tout cas, rien que le boulot, où tout le monde la détestait un peu. »
« Ah, tous les gens seuls !» dit Hodges en sortant dans le froid pour rejoindre l'arrêt de bus.
Il boutonne son manteau d'une main et commence à se masser les côtes. « Oui, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Hodges ?»«
J'aurais quelques questions à vous poser. On peut se retrouver autour d'un verre ?»
Un long silence se fait. Hodges pense qu'elle va refuser, puis elle dit enfin. « Ne me dites pas que vos questions pourraient attirer des ennuis au docteur Babineau ?»«
Tout est possible, Norma.
Comme ce serait chouette. Mais j'imagine que je vous dois bien ça, de toute façon. » On se connaissait du temps de Becky Elmington, et vous n'avez pas craché le morceau. Il y a un bar sur Revere Avenue. Il a un nom très spirituel, le Bar-Bar, et la plupart de mes collègues vont boire plus près de l'hôpital. Vous allez trouver ?
Ouais.
Je termine à 5 heures. On peut se retrouver là-bas à 5h30 ? J'aime ma vodka martini bien fraîche.
C'est noté.
Mais ne vous attendez pas à ce que je vous laisse voir Hartsfield. Ça me coûterait mon poste. Babineau a toujours été véhément, mais ces jours-ci, il est carrément bizarre. J'ai essayé de lui parler de Ruth, mais il m'a snobé royalement. Pas qu'il soit du genre à compatir, mais quand même.
Vous ne le portez pas tellement dans votre cœur, n'est-ce pas ?
Elle rit. Là, vous me devez 2 verres.
Va pour 2.
Il est en train de glisser son portable dans la poche de son manteau quand celui-ci se remet à vibrer. Il voit que l'appel est de Tanya Robinson et ses pensées se tournent immédiatement vers Jérôme, construisant des maisons là-bas en Arizona. Des tas d'accidents peuvent arriver sur un chantier. Il répond. Tanya est en train de pleurer. Trop fort au début pour que Hodges la comprenne. Il saisit seulement que Jim est à Pittsburgh et qu'elle ne veut pas l'appeler tant qu'elle n'en sait pas plus. Hodges s'est arrêté sur le trottoir, une main plaquée sur l'oreille pour couvrir le bruit de la circulation.
« Calmez-vous, Tanya, calmez-vous. C'est Jérôme ? Quelque chose est arrivé à Jérôme ? » ?»«
Non. » Jérôme va bien, je viens de l'appeler. C'est Barbara. Elle était à Lowtown.
Bon sang, mais qu'est-ce qu'elle fabriquait à Lowtown ? Et un jour de cours en plus ?
Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un garçon l'a poussée sur la route et qu'elle s'est fait renverser par une camionnette. Il l'emmène au Kinner Memorial, je suis en route là.
Vous êtes au volant ?
Oui, qu'est-ce que ça a ?
Lâchez votre téléphone, Tanya, et ralentissez. Je sors de Kinner là. Je vous attends aux urgences.
Il raccroche et retourne vers l'hôpital en trottant maladroitement. Il pense « Cet endroit est comme la mafia. À chaque fois que je crois en être sorti, il me rappelle à lui. » 14. Une ambulance, gyrophare allumé, est juste en train de reculer sur l'une des rampes d'accès aux urgences. Hodges va à sa rencontre tout en se munissant de sa carte de police qu'il garde toujours dans son portefeuille. Quand les ambulanciers sortent le brancard par l'arrière du véhicule, il brandit rapidement sa carte, pouce posé sur le tampon, retraité. Techniquement, se faire passer pour un officier est un crime. Par conséquent, c'est une magouille que Hodges utilise avec modération. Mais cette fois-ci, ça lui paraît absolument nécessaire. Barbara est sous sédatif, mais consciente. Quand elle aperçoit Hodges, elle lui saisit fermement la main et dit
« Bill ?» Comment vous êtes arrivé si vite ? C'est maman qui vous a appelé ?
Oui. Comment tu vas ?
Ça va. Ils m'ont donné quelque chose pour la douleur. Ils disent que j'ai la jambe cassée. Je vais rater la saison de foot, mais j'imagine que c'est pas grave puisque maman va me punir jusqu'à mes 25 ans au moins.
Des larmes commencent à déborder de ses yeux. Il n'a pas beaucoup de temps, alors il devra attendre avant de lui demander ce qu'elle faisait sur MLK Avenue, où il y a parfois jusqu'à 4 fusillades par semaine. Il y a plus important comme question.
Barb, est-ce que tu connais le nom du garçon qui t'a poussé devant la camionnette ?
Les yeux de Barbara s'agrandissent.
Ou peut-être que tu pourrais me le décrire.
Poussé ? Oh non, Bill, non, c'est pas ça.
Monsieur l'agent, il faut qu'on y aille, dit l'un des ambulanciers. Vous pourrez la questionner plus tard.
Attendez !
Crie Barbara en essayant de s'asseoir. L'ambulancier la repousse gentiment. Elle grimace de douleur Mais Hodges est rassuré par ce puissant cri du cœur.
Qu'est-ce qu'il y a, Barbara ?
Il m'a poussé après que j'ai couru pour traverser. Il a voulu m'écarter de la camionnette. Je crois bien qu'il m'a sauvé la vie, et je suis contente.
Elle pleure à chaudes larmes à présent. Mais Hodges ne pense pas une seule seconde que ce soit à cause de sa jambe cassée.
Je veux pas mourir, en fait. Je sais pas ce qui m'a pris.
Chef, on doit vraiment l'emmener en salle d'examen. Il faut qu'elle passe une radio.
Dites-leur de laisser le garçon tranquille !
Lui crie Barbara alors que les ambulanciers la poussent entre les doubles portes.
Il est grand ! Il a les yeux verts et un bouc ! Il va au lycée de Todd Hunter !
Elle disparaît derrière les portes battantes qui claquent. Hodges va dehors, où il peut téléphoner sans se faire réprimander, et appelle Tanya.
Je ne sais pas où vous êtes, mais ralentissez et ne brûlez aucun feu rouge. Elle vient d'arriver et elle est bien consciente. Elle a une jambe cassée.
C'est tout ? Dieu soit loué. Pas de lésion interne ?
Ce sera au médecin de le dire. Mais elle avait l'air plutôt vive. Je pense que la camionnette a dû l'effleurer.
Il faut que je prévienne Jérôme. J'ai dû lui flanquer une de ses frayeurs. Et Jim aussi. Il n'est pas encore au courant.
Vous les appellerez quand vous serez arrivé. Pour le moment, laissez votre téléphone tranquille.
Vous, Bill, vous pouvez les appeler ?
Non, Tanya, je peux pas. J'ai quelqu'un d'autre à appeler.
Il reste debout là, à exhaler des panaches de vapeur blanche, le bout des oreilles engourdies. Il n'a pas envie que ce quelqu'un d'autre soit Pete, car pour l'heure, Pete l'a légèrement dans le collimateur, sans parler d'Easy James. Il réfléchit à ses autres options, mais n'en voit qu'une seule, Cassandra Sheen. Il a travaillé plusieurs fois avec elle quand Pete était en vacances, et une fois en particulier, quand Pete avait pris 6 semaines de congé inexpliqué. C'était peu de temps après son divorce, et Hodges en avait déduit qu'il était parti en cure de désintox. Mais il n'avait jamais demandé, et Pete n'avait jamais pris l'initiative d'en parler. Il n'a pas le numéro de portable de Cassie, alors il appelle au bureau des inspecteurs et demande à être mis en relation avec elle, en espérant qu'elle n'est pas sur le terrain. Et il a de la veine. Après moins de 10 secondes de MacGruff, le chien détective, elle est au bout du fil.
« Je parle bien à Cassie Sheen, la Botox Queen. »«
Billy Hodge, vieille canaille, je te croyais mort. »«
Tu crois pas si bien dire, Cassie, » se dit-il. « J'adorerais te baratiner, ma grande, mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Ils ont pas encore fermé le commissariat de Strike Avenue, dis-moi. »«
Non, c'est prévu pour l'année prochaine, cela dit. Parfaitement logique. De la criminalité à Lowtown ? Quelle criminalité ?»
Ouais, le quartier le plus sûr de la ville. Ils doivent avoir un jeune en garde à vue là-bas. Et si mes informations sont bonnes, il mérite plutôt une médaille.
Tu as un nom ?
Non, mais j'ai sa description. Grand, yeux verts, barbichette.
Il se repasse ce que lui a dit Barbara et ajoute.
Il se peut qu'il porte un blouson du lycée de Todd Hunter. Il s'est probablement fait arrêter pour avoir poussé une jeune fille devant une camionnette. En réalité, il l'a poussée pour éviter qu'elle se fasse écraser.
Tu es certain de ce que tu avances ?
Certain.
Ce n'est pas l'exacte vérité, mais il fait confiance à Barbara.
Trouve son nom et demande au policier de le garder un peu, ok ? Je veux lui parler.
Ça peut se faire.
Merci, Cassie. Je te revaudrai ça.
Il raccroche et consulte sa montre. S'il a l'intention de parler au jeune du lycée de Todd Hunter tout en maintenant son rendez-vous avec Norma, pas le temps de s'embêter avec les transports en commun. Une chose que Barbara a dite tourne en boucle dans son esprit. « Je veux pas mourir, en fait. Je sais pas ce qui m'a pris. » Il téléphone à Holly.